Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Nous revenons donc au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, pour alléger un petit peu le message. On va lire à partir du verset 4 et jusqu'au verset 6. Nous citerons éventuellement quelques autres passages du chapitre 53 tout à l'heure. 53 verset 4, où Ésaïe dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Amen. On va s'arrêter là. Il y aurait, comme nous l'avons déjà dit, bien sûr, pour n'importe quel autre texte, beaucoup de choses à dire. Je voudrais qu'aujourd'hui on se penche sur, en particulier, les souffrances de Jésus, que nous avons intitulées « Les souffrances expiatoires ». Si, comme nous l'avons dit l'autre jour, le chapitre 53, c'est le cœur de la prophétie d'Ésaïe, on peut dire que ces versets que nous venons de lire ce matin, eh bien, sont le cœur du chapitre 53. Ils sont d'une importance, je dirais, énorme. Et tout ce dont nous avons besoin, eh bien, se trouve dans ce passage. Que ce soit la guérison, que ce soit la paix, la justification, le pardon des péchés, la vie éternelle, c'est merveilleux. Et ces versets nous disent que les souffrances du serviteur de Dieu sont expiatoires. Nous allons bien sûr nous arrêter tout à l'heure quelques minutes sur cela. Vous avez bien compris, je suppose, la plupart d'entre vous, que ce n'est pas pour ses péchés qu'il a souffert, mais c'est à la place des pécheurs du monde entier. C'est l'apôtre Jean qui dit que Jésus est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Alors nous allons considérer ce matin, la personne du serviteur souffrant, on ne connaît pas à ce moment-là son nom, nous maintenant on connaît son nom, c'est le serviteur souffrant, mais on va essayer de l'étudier à travers les yeux de trois personnes. On va voir d'abord à travers les yeux d'un pécheur, puis après Dieu le Père, et troisièmement un croyant, les croyants que nous sommes. Alors on va d'abord voir les considérations du pécheur. Comment le pécheur considère Jésus sur la croix? Que dit un pécheur quand il regarde à la croix? Je parle d'un pécheur, non pas d'un pécheur pardonné, car il serait un croyant. Non, je parle quelqu'un de l'extérieur, de la foi. Vous savez que dès le début, par exemple, l'Écriture déclare qu'un pécheur doit mourir. L'Éternel Dieu l'avait d'ailleurs annoncé avant même que le péché ne pénètre dans le monde, lorsqu'il avait dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et vous le savez, Adam et Ève ont mangé de cet arbre, et la mort s'est étendue à tous les hommes. Je vais m'expliquer sur cette idée tout à l'heure. David dira « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Alors, puisque le péché est universel, selon les textes de l'Écriture, et que tout le monde meurt, alors, je parle toujours avec les yeux d'un pécheur, hein, quelqu'un de l'extérieur. Alors, Jésus qui meurt aussi de cette façon sur la croix doit avoir commis d'horribles fautes. Ah, imaginez un petit peu mourir comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me mets à la place de quelqu'un du dehors. Le prophète Ézéchiel dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et c'est ce qui lui arrive. C'est ce que on dit, par exemple, les amis de Job aussi. Job, dont il nous est dit que ses enfants ont été tués, sa richesse et sa maison ont disparu, sa femme le haïssait, et lui-même était affligé d'une horrible maladie. Conclusion, qu'est-ce que vous en pensez devant une telle calamité? Eh bien, Job a dû pécher gravement envers Dieu, sinon il ne lui serait pas arrivé toutes ces souffrances. C'est ce que ses amis lui ont dit carrément. Alors l'idée est bien sûr que la souffrance est toujours due à un péché personnel. Dans la loi de Moïse, nous lisons, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Imaginez un petit peu, nos amis d'Israël connaissaient ce passage. Alors quand les gens ont regardé à Jésus pendu au bois, et qu'on se souvient de ce que dit la loi de Moïse, même certains élus ont eu une fausse conclusion. Cette conclusion qu'on pourrait paraphraser ainsi, c'est certainement un blasphémateur. Il est pendu au bois, alors il est sous la malédiction de Dieu. Il souffre à cause de sa propre culpabilité. Il a transgressé la loi de Dieu. Sinon, il ne serait pas là. Qu'en pensez-vous? Mettez-vous à la place des amis qui sont au dehors, n'est-ce pas? Voilà donc ce que déclare Ésaïe 53, justement, au verset 3 et au verset 4. Que nous avons vu l'autre jour, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, mais surtout il ajoute, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez comment on l'a considéré, dit Ésaïe, il se met dans la bouche des gens qui sont là et qui entendent ce message. Car au début, vous vous souvenez qu'il dit « Qui a cru à notre message hein ?» Et alors il dit « Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. » Voilà un peu la pensée de l'homme de l'extérieur. Dans Matthieu 27, verset 39, je vous cite un petit peu en grande ligne ce qui est écrit. « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple » et qui le rebâtit en trois jours. » Et ça, c'est des gens qui regardent justement Jésus et ses souffrances. « Sauve-toi toi-même, lui disent-ils, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut pas sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Vous avez compris que l'idée qui se dégage de ces expressions qui sortent de leur bouche, c'est « Qui a dit que tu étais le Fils de Dieu ?» Mais tu ne l'es pas. C'est ce qu'ils sont en train de dire. « Tu as blasphémé. Qui a dit ? C'est toi qui l'as dit que tu étais le roi d'Israël. Mais regarde où tu es. » Voilà donc comment les incrédules de ce monde, aujourd'hui encore, traitent le Seigneur Jésus avec un total mépris. Vous imaginez pas, même certains qui disent « Ouais, c'était un homme bon. » Mais enfin, mourir sur une croix et nous dire que c'est le Fils de Dieu, que c'est le Sauveur. Et les gens ne comprennent pas qui a cru au message qui nous était annoncé. Ce qui serait intéressant quand même, c'est que l'on considère comment Dieu, lui, voit la chose. Voilà comment voient les hommes, évidemment, mais comment le Père Céleste considère-t-il les souffrances de Jésus? Les souffrances endurées par son serviteur, elles sont uniques. Et plus on les étudie, plus on arrive à cette conclusion. Et bien sûr, ces souffrances ne doivent pas être interprétées à la légère. Les hommes, eux, de l'extérieur, avaient vu, n'est-ce pas, un homme crucifié. Et ils ont considéré qu'il devait avoir commis une faute grave. Ça, c'est l'opinion humaine. Mais quand Dieu déchire le voile, alors là nous avons la considération divine. Qu'est-ce que Dieu pense? Quand Dieu accorde sa révélation, alors les choses sont tout autres, mes frères et sœurs. Quand Dieu nous dit exactement ce qui se passe, celui-ci ne souffre pas à cause de ses péchés, il est innocent. Il souffre à cause de nos péchés. Gloire à Dieu. Nous avons péché. Et c'est lui qui souffre. Nous méritions la mort. Et lui meurt à notre place. Le verset 4 commence par le mot « cependant ». Vous avez pu remarquer dans vos lectures habituelles, car je crois que ce passage d'Ésaïe 53, vous le connaissez très bien, surtout qu'on on le prêche souvent aussi, quand nous arrivons à ce verset 4, il dit « cependant ». Il y a une raison à cela. En hébreu, c'est le mot « akem ». On va le traduire. Et il peut se traduire par « en vérité ». D'ailleurs, si vous prenez des traductions différentes, vous verrez que certains ont traduit « cependant », mais d'autres ont traduit différemment. « En vérité ». Ce qui fait qu'on peut traduire ainsi, nous l'avons considéré comme puni. Nous, on a pensé qu'il était puni. Frappé de Dieu et humilié. En vérité, nous dit le Saint-Esprit, c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Je traduis par maladie parce que c'est le mot par lequel nous devrions traduire certains mots de ce chapitre 53, n'est-ce pas, selon les mots qui se trouvent dans le texte original, c'est-à-dire en hébreu. Amen. Donc ce mot veut dire que ce que les hommes ont estimé était faux. Quand ils ont dit, il était frappé de Dieu, c'est Dieu qui l'a humilié, c'est Dieu qui l'a puni, eh bien c'est faux, nous dit le Seigneur. La vérité, c'est que Jésus portait nos maladies et nos douleurs. Les pronoms ont ici, évidemment, une grande importance. Il portait, lui, le serviteur souffrant, il s'était chargé. Mais de quoi? Il est dit de nos. Nos maladies. Vous remarquerez les pronoms, hein, nos maladies, et ensuite nos douleurs. On donnera d'autres détails tout à l'heure. Quand il est dit homme de douleur et habitué à la souffrance, ça c'est au verset 3. Au verset 4, il est donné l'explication, c'était nos maladies qu'il portait. Quand il est dit qu'il était homme de douleur, habitué à la souffrance, n'est-ce pas? Eh bien, il est dit, c'était de nos maladies qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Donc, sans cette révélation divine, c'est vrai que les gens penseraient qu'il souffrait ses propres douleurs et ses souffrances personnelles. Mais le texte hébreu déclare que ce sont nos maladies, que ce sont nos douleurs, douleurs physiques, douleurs mentales, douleurs spirituelles. Je voudrais vous dire ce que je crois personnellement, parce que c'est ce que dit l'Écriture, c'est que Jésus, à la croix du calvaire, s'est chargé de l'homme tout entier. Certains veulent dire, ah oui, mais c'était des maladies spirituelles, parce qu'ils ne veulent pas croire à la guérison physique. Mon ami, Jésus a-t-il été crucifié spirituellement, ou a-t-il vraiment été crucifié dans sa personne tout entière, jusqu'à la mort? Donc, je crois que Jésus a expié pour l'homme tout entier, parce qu'il a pris sur lui l'homme tout entier à la croix du calvaire. Alléluia! Alors, c'est ici, bien sûr, la révélation divine. Ça se voyait pas avec les yeux humains. Ce qui nous est communiqué ici par le prophète Ésaïe, c'est ce que Dieu voyait, mes frères et sœurs. Mais ce que Dieu voyait, l'être humain ne le voyait pas. Nous avions besoin d'une révélation. Alors ne vous méprenez pas sur ce serviteur ou sur son œuvre. Les transgressions et les iniquités sont nôtres. Nous, nous sommes révoltés contre les lois de Dieu. Et nous avons refusé de nous soumettre à lui. Nous avons dit, nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. On était très volontaires, vous savez. Il a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous, nous avons dit, nous aurons d'autres dieux. Il a dit, ne commettez pas d'adultère. Et nous avons dit, nous commettrons adultère. Il a dit, vous ne mentirez pas. Et nous avons dit, nous mentirons. Il a dit, vous ne tuerez point. Et nous avons dit, nous tuerons. Vous êtes conscients, vous étiez des pécheurs? Des vrais. Ah, parce que certains... mais moi, j'étais un gentil pêcheur. Ah, existe ça, des gentils pêcheurs? Un pêcheur est un être perdu. Alors, parce que nous sommes pervertis, nous avons tordu les lois de Dieu, et nous avons fait le contraire de ce qu'il a dit. Comme dit Esaïe, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et Dieu dit, voilà le chemin qu'il faut suivre, et nous avons dit, j'irai pas par ce chemin. Ne me dites pas que l'homme n'est pas pénible. Nous nous sommes détournés de la voie droite du Seigneur, qui était la voie de la paix, qui était la voie de la vie et de l'espoir. Les iniquités qu'il portait étaient nôtres. Les transgressions étaient les nôtres. Les péchés étaient les nôtres. Nous sommes donc coupables et méritons d'être punis. Mais chose étonnante, nous ne sommes pas punis. Nous ne sommes pas punis. Nous nous trouvons là à regarder à celui qui est puni à notre place. Quelqu'un qui souffre les conséquences éternelles de notre péché. Je crois qu'on a raison de dire qu'Ésaïe 53, c'est vraiment le centre de sa prophétie. Alléluia. Alors de quelle façon est-il mort, sa mort? Premièrement, je crois que je serais d'accord, a été violente. Le verset 5 dit, je cite souvent d'autres traductions, des fois je le précise pas, mais vous avez la possibilité de regarder d'autres traductions. La version à la colombe ici dit, au verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. » C'est la crucifixion. C'est de la croix que Esaïe parle ici. Dans le Nouveau Testament, nous lisons que ses mains, ses pieds et son côté ont été percés. Et non seulement cela, mais il a été écrasé, il a été flagellé à mort, il a été déchiré. Je voudrais rappeler ce que dit le chapitre 52, sur lequel on ne s'est pas encore arrêté, lorsqu'il est dit qu'il ne ressemblait plus à un homme, tant il était défiguré. Sa mort a été violente, car il y a différentes morts. On peut mourir paisiblement dans son lit, hein. On rêve tous de mourir comme ça, hein. On se réveille au ciel. Tu sais, qu'est-ce que je fais là? Dans la gloire entourée d'anges. Hein, comme disait l'apôtre Pierre, quand les chaînes sont tombées de ses mains, il croyait faire un rêve, voyez-vous. Mais c'était vrai, ces chaînes sont tombées, et il y avait un ange qui était là. Oui, mes frères et sœurs, tout cela, il le souffre pour nos iniquités. C'est ça la croix. Oh, que des amis ouvrent les yeux encore aujourd'hui, et demain et après-demain, et ne disent plus, mais pourquoi il souffre puisqu'il est le Fils de Dieu, puisqu'il est le Tout-Puissant, pourquoi il ne descend pas de la croix, mais parce qu'il est en train de souffrir pour nos iniquités. Il a souffert une mort violente. Mais ce qui est important aussi d'ajouter, c'est que sa mort était expiatoire. Le serviteur souffrant a déchargé nos épaules de nos douleurs. Nos maladies, nos transgressions, nos iniquités et nos péchés, et il les a pris sur lui-même. Voilà exactement ce que nous dit Ésaïe 53. Et il l'a fait librement, c'est ce que signifie le mot « il s'est chargé ». Il s'est chargé, c'est lui qui l'a fait. On ne l'a pas chargé, il s'est chargé. Ça veut dire donc qu'auparavant c'était sur notre tête, toutes ces choses, maladies, etc. Mais mes frères et sœurs, il est venu et il a tout pris et il a tout mis sur lui. Celui qui n'a point connu le péché, nous dira l'apôtre Paul, est devenu péché pour nous. Toutes les conséquences spirituelles et éternelles de nos péchés ont été ôtées de dessus nos épaules, ce qui nous inquiétait autrefois, ce qui nous tourmentait, eh bien n'est plus du tout sur nous, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons la paix. Oh, que chaque âme trouve aujourd'hui ce repos qui lui est tellement nécessaire. Alléluia! C'était notre iniquité, mais Dieu le Père a déposé sur lui l'iniquité de nous tous. Gloire à Dieu! Notre mort a été subie par Jésus. Vous vous rendez compte que Jésus n'est pas mort de sa mort. Il est mort avec notre mort. C'est notre mort qui l'a fait mourir. C'est de notre mort qu'il est mort. La mort lui a été infligée par la justice, non pour ses péchés, mais pour les nôtres. Sa mort a expié nos péchés. Sa mort fut solitaire. On peut mourir encouragé, hein. On peut mourir environné par des amis qui nous consolent. Mais la mort de Jésus a été solitaire. Il souffrait seul alors que les humains regardaient. Nous regardions. Ses propres disciples se sont sauvés loin de lui. Tous se sont éloignés. Même son propre père a détourné de lui sa face. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le Fils a fait l'expérience d'un abandon total, d'une complète solitude. Il a souffert tout seul, mes frères et sœurs, parce que c'était pas possible qu'il en soit autrement, parce que ses souffrances sont expiatoires et personne n'a participé à ses souffrances. Ajoutons aussi quelque chose d'important, c'est que sa mort était celle du substitut. C'est pas un mot que nous employons souvent, mais je pense que vous le comprenez. Ce chapitre 53 est rempli du langage de substitution. Par exemple, il est dit, c'était nos maladies qu'il portait. C'est nos maladies, mais c'est lui qui les porte. Il est dit, nos douleurs, dont il s'était chargé. Nos douleurs, les nôtres. Mais lui, il s'en était chargé. Ensuite, il est dit, il était blessé, mais pour nos péchés. C'est ça la substitution. Il prend la place de l'homme. Il est brisé, mais pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous remarquerez à chaque fois la substitution. C'est nous, mais c'est lui qui supporte. Et c'est par ses meurtrissures, les siennes, que nous sommes guéris. Ensuite, il est dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Gloire à Dieu. Et ensuite, je termine avec les derniers versets du chapitre 53, où il est dit, il se chargera de leurs iniquités. Il, Jésus, se chargera des iniquités des humains, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Gloire à Dieu. Sa mort était une mort en sacrifice. Ce n'est pas une idée nouvelle pour ceux qui sont habitués au langage de la Bible. La mort en sacrifice fut donnée par Dieu lui-même dans le système lévitique. On appelle Lévitique ce qui est écrit dans le livre du Lévitique, la loi de Dieu qui a été donnée à travers Moïse et qui décrivait comment il fallait offrir les sacrifices et pourquoi il fallait offrir les sacrifices. Eh bien, il nous est dit que c'était pour les péchés des hommes. Donc, mourir en sacrifice, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je vous lis par exemple Lévitique 17, verset 11. Il est dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il y a toujours l'idée du sacrifice derrière. Le verset 10 d'Ésaïe 53 dit, après avoir livré, il est parlé du serviteur de l'Éternel, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. La résurrection de Jésus est sous-entendue ici, parce que s'il livre sa vie en sacrifice pour le péché, donc il meurt. Et après, qu'est-ce qui est écrit ? Il prolongera ses jours. Et donc, il faut être inspiré pour écrire des choses pareilles. Parce que moi, j'aurais écrit ça, j'aurais dit, tu es un insensé, tu es en train de dire des choses incohérentes. S'il livre sa vie, il ne peut pas prolonger ses jours. Mais moi, je suis un être humain, tandis que là, c'est Dieu qui parle. Gloire à Dieu. C'est ça la prophétie, c'est ça l'inspiration, mes frères et sœurs. Quand je vois qu'il y a des gens qui passent leur vie à étudier des livres qui valent rien, c'est dommage, hein. Il livre sa vie en sacrifice pour le péché. Vous voyez que c'est bien un sacrifice dont il est question ici dans Ésaïe 53. Et ensuite, sa résurrection, il verra. Donc, il va ressusciter des morts pour voir une postérité et prolonger ses jours. On termine avec les considérations du croyant. C'est intéressant, hein. On a vu, bien sûr, d'après les yeux d'un pécheur, de quelqu'un de l'extérieur, un incrédule. Nous avons vu aussi comment Dieu a vu la chose et ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Bien sûr, il aurait fallu s'étendre davantage, citer beaucoup de textes du Nouveau Testament. Mais dans la considération du croyant, comment un croyant voit Ésaïe 53, la mort de Jésus? Eh bien, moi, j'ai aimé me souvenir de ce passage de Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, lorsqu'il dit « Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi ». Comment est-ce qu'un croyant considère la mort de Jésus sur la croix? Il m'a aimé. Moi, je ne dis pas qui a cru à ce message. Je ne dis pas, n'est-ce pas, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Je ne dis pas, il est frappé de Dieu, il est, etc. Ouais, il a dû commettre des grandes fautes pour mourir, être pendu au bois, c'est une malédiction. Alors, qu'est-ce que... Non. Quand Ésaïe dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?»« Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Nous disons que le bras de l'Éternel nous a été révélé. Il nous a été révélé dans les Écritures, mais il nous a été révélé dans notre cœur aussi par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que nous ne considérons plus Christ comme quelqu'un qui aurait péché et qui méritait d'être crucifié. C'est le point de vue du pécheur. Pour nous, il est Emmanuel. Alléluia. Il est Dieu avec nous. Il est Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Il est le sacrifice expiatoire. Il est le rédempteur de son peuple. Il est le substitut. Il est le médiateur. Le péché, donc, ne doit pas être pris à la légère, mes frères et sœurs. C'est un crime contre Dieu. C'est une rébellion contre la souveraineté divine. Mais nous reconnaissons, nous les croyants, que chaque pécheur doit subir la juste colère de Dieu. Autrement, on ne comprend pas le sacrifice de Jésus à la croix. On dit, mais je vais essayer de faire le mieux possible pour gagner le ciel. Beaucoup de gens pensent que c'est comme ça. Ils seront justifiés par leurs œuvres. C'est pas vrai. Non. Nous disons que chaque pécheur doit subir la juste colère de Dieu. Mais il y a eu la croix. Gloire à Dieu. La croix qui a été plantée. Et là, Christ s'est offert volontairement aux souffrances et à la mort, à notre place. Et c'est pourquoi il est écrit, il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Nous devions mourir. Nous devions subir la colère de Dieu. Mais lui, il livre sa vie en sacrifice pour ses péchés qui méritent la colère de Dieu. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous confessons cette vérité qui est la révélation de l'œuvre divine. Dieu nous dit, voilà mon enfant, ce que j'ai fait pour toi. Amen. Et nous répondons, merci Père. Merci Seigneur Jésus. Et sans cesse, nous voulons faire monter vers lui nos remerciements, notre adoration, nos actions de grâce. Gloire à Dieu. Je voudrais citer aussi ce que disait Paul dans Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Ça veut dire, nous ne connaîtrons pas la colère de Dieu. Christ l'a soufferte à notre place. Vous vous souvenez que nous avions dit que Dieu avait ôté la coupe de la colère qui était dans nos mains, et il a dit, j'ai ôté la coupe de la colère de ta main. Tu regardes tes mains aujourd'hui, et tu es obligé de dire, la coupe de la colère de Dieu n'est plus dans mes mains. Maintenant, j'ai la coupe de la bénédiction. C'est pourquoi un croyant participe à la Sainte Cène. Il rend grâce à Dieu pour le pain qui rappelle, qui est le souvenir du corps de Christ, comme dit Paul. Et ensuite, il prend la coupe. Autrefois, c'était la coupe de la colère. Maintenant, c'est la coupe de bénédiction que nous bénissons. Alléluia. Nous ne connaîtrons pas la colère de Dieu, mes frères et sœurs. Le Fils a souffert pour chacun de nos péchés pour que nous soyons épargnés. Nous avons la paix. Nous avons le repos. Le repos intérieur. Nous avons la guérison. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je ne vais pas vous citer ce matin tout ce que nous avons, parce que Paul lui-même parle des richesses insondables de Christ. Gloire à Dieu. Alors non seulement nos péchés et notre culpabilité ont été pris par Jésus, parce que ça c'est le côté négatif, il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités, c'est maintenant sur lui. Alors nous on en est dégagés. Mais il y a une autre transaction, il y a eu la transaction négative, les péchés qui sont sur nous, il les prend et ça va sur lui, et il meurt avec nos péchés, et il s'est mort pour nos péchés. Mais il y a le côté positif. Sa justice divine, la justice qui est la sienne et qui est parfaite, nous a été imputée. Elle est mise sur notre compte. Alléluia. C'est un langage un peu bancaire là, hein. C'est mise sur notre compte, mes bien-aimés. Le verset 11 dit, par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Amen. Et se chargera de leurs fautes. Donc, il n'y a pas simplement qu'il se charge de nos fautes, mais il y a sa justice qui nous est octroyée. Non seulement nous avons le pardon de nos péchés, mais nous avons une parfaite justice qui nous a été accordée. C'est beau, hein? Comment vous allez partir ce matin? Oh, avec la joie dans le cœur. C'est pourquoi, je crois, nous aimons chanter « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Parce qu'ici, le Seigneur ouvre le ciel. Et il nous parle, alléluia, nous sommes justes devant Dieu, mais justes de la justice de Jésus, gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour l'éternité. C'est pas beau ça? Merci Seigneur, quel repos dans notre âme, hein? Comme disait le cantique, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Mes péchés ne sont plus, gloire à Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Et comme dit Paul, et il est ressuscité pour notre justification. Je voudrais adresser un petit mot à ceux qui peut-être n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Parce que là, c'est grandiose, c'est glorieux pour celui qui est déjà engagé. Mes frères, mes sœurs, je crois que vous, votre cœur vibre ce matin en entendant ces paroles. Ça réveille à nouveau ce que vous saviez déjà. Mais comme c'est bon de le réentendre, hein. Oui. Alors votre cœur est dans la joie, il palpite, il dit « Ah, c'est vrai Seigneur, merci de nous avoir rappelé ces choses ce matin. » Mais peut-être y a-t-il au milieu de nous des âmes qui ne sont pas encore engagées avec le Seigneur et qui entendent ces paroles et qui disent « Oui, mais moi. » Eh bien toi, crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu? Tu vois, ça n'attend que toi. Il suffit que toi, tu te décides. Dieu attend ta décision. Il attend, n'est-ce pas, que tu t'engages. Crois-tu qu'il est mort à ta place? Crois-tu qu'il est mort pour expier tes péchés? Alors ce matin, si tu veux croire, demande à Dieu maintenant de te pardonner et de te sauver. Car pour Dieu, il n'y a pas de temps plus favorable qu'un autre. Dieu dit, voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Amen. Dieu étant dans l'éternité, il ne dit pas, ben, je vais attendre d'avoir mangé les spaghettis tout à l'heure. Non, non, le Seigneur ne parle pas comme ça. En un instant, tu ouvres ton cœur, le salut rentre dans ton cœur. Tes péchés sont pardonnés, tu quittes ce lieu purifié, justifié par la grâce de Dieu. Car pour Dieu, il n'y a pas de temps, c'est instantané. Peut-être que tu vas quitter ce lieu en ne ressentant encore rien, malgré que tu auras fait le pas. Mais n'aie pas peur, Dieu a quand même agi. Parce que Dieu fait des choses qui nous dépassent, qui nous transcendent. Des fois, j'ai été guéri, des fois, sans m'en rendre compte. C'est après coup que j'ai dit, mais au fait, il n'y a plus mal. Vous voyez, c'est, tout à coup, on devient conscient. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous avez fait la même expérience. Hein. Tout à coup, vous dites, mais au fait, j'ai plus mal. Je suis rentré chez moi et je me suis rendu compte que j'avais plus mal. On a souvent entendu des témoignages comme ça, hein. Vous voyez que Dieu n'a pas besoin de coups de tonnerre, ni, comme dans les films, vous savez, de roulements de tambour, laissant ça pour le monde, hein. Notre Dieu, il agit d'une manière extraordinaire. Alors que tu quitteras peut-être ce lieu, en disant ce matin, j'ai donné mon cœur à celui qui est mort pour moi. Ses souffrances étaient expiatoires, je l'ai compris aujourd'hui. Il est mort, mais avec mes péchés. Ce sont mes iniquités qu'il portait sur lui. Mon Dieu, mes péchés ne sont plus sur moi, ils sont sur Jésus. Tu m'as ouvert les yeux ce matin. Tu vas peut-être quitter ce lieu en disant, mais je ressens encore rien. Parce que les gens, il faut toujours qu'ils ressentent. Eh bien, je vous dirai, persévérez, continuez à marcher avec le Seigneur. Engagez-vous pleinement avec lui, vous sentirez après. Amen. Car la Bible dit, si tu crois, alors tu verras. Crois d'abord et tu verras la gloire de Dieu.